SBS Radio.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et comme chaque mardi, à présent en place à l'actualité française. Et pour en parler avec nous, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Émile, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors à la une, tout d'abord, Jeanne Calment, qui reste bien la doyenne de l'humanité.
La Française Jeanne Calment, décédée en 1997 à l'âge de 122 ans. Cela fait d'elle la personne ayant vécu le plus longtemps. Mais ces dernières années, des doutes ont été émis quant à l'âge véritable qu'elle avait lorsqu'elle est décédée. Des doutes également sur sa réelle identité. Des chercheurs russes, argument à l'appui, ont ainsi avancé en 2018 qu'il y avait eu au sein de la famille de Jeanne Calment une usurpation d'identité, que la vraie Jeanne Calment était morte, en fait, non pas en 1997, mais en 1934, et que la personne décédée en 1997 était en fait sa fille, la fille de Jeanne Calment, et qu'elle n'était âgée alors que de 99 ans. Ces arguments, ils viennent d'être balayés, réfutés point par point par une étude scientifique publiée dans la revue Journal of Gerontology, Medical Science, un article scientifique écrit par un médecin et un démographe français qui ont bien connu Jeanne Calment. Ils l'ont interviewée à différentes reprises dans le passé, lorsqu'elle était encore en vie. Ils ont écrit leur dernière publication avec l'appui d'un chercheur danois et d'un gérontologue de l'hôpital universitaire de Genève. Et donc, point par point, scientifiquement, eh bien, ils démontent les allégations des chercheurs russes. Non, il n'y a pas eu de complot, il n'y a pas eu de substitution mère-fille, il n'y a pas eu de fraude à l'assurance de la part de la famille de Jeanne Calment. Les chercheurs explique que le dossier, entre guillemets, Jeanne Calment, est exemplaire, à savoir les documents d'état civil paroissiaux qui attestent de sa naissance le 21 février 1875 à Arles, dans le sud de la France, et sa mort donc le 4 août 1997. Les chercheurs montrent que, contrairement à ce que voulaient montrer les chercheurs russes, les ascendants de Jeanne Calment avaient déjà atteint un très grand âge, bien plus que la moyenne. Les Russes avaient aussi mis en avant des caractéristiques physiques qui pouvaient faire douter de son identité, couleur des yeux, taille, forme du menton. Eh bien, là aussi, tous ces points ont été balayés. Ils avaient déjà été balayés par d'autres études scientifiques. S'appuyant sur le parcours, sur le profil d'autres centenaires, notamment Sarah Knaus, une Américaine décédée en 1999 à l'âge de 119 ans, les chercheurs, dans leur dernière publication, les chercheurs français expliquent que, je cite, « les supercentenaires, comme on les appelle, se caractérisent typiquement comme des personnes ayant retardé la survenue des principales maladies ou y ayant totalement échappé ». Cet article réhabilite donc en quelque sorte Jeanne Calment comme doyenne du monde, au sens celle qui a vécu le plus longtemps, même s'il pourra et même s'il subsistera toujours des doutes possibles, car d'un point de vue formel, seule une étude de l'ADN de la dépouille de Jeanne Calment permettrait de dire si elle était bien Jeanne Calment et si de fait elle s'est éteinte à plus de 122 ans. Pour rappel, aujourd'hui, la doyenne de l'humanité, encore en vie et qui sait, dépassera peut-être un jour les 122 ans de Jeanne Calment, eh bien, la doyenne en vie, c'est une Japonaise, Kane Tanaka, née le 2 janvier 1903, autrement dit, elle est âgée de plus de 116 ans, Kane Tanaka.
Et puis on en parle également, les mouvements de grève qui se multiplient pour répondre à la réforme des retraites voulue par le gouvernement.
Bien, pour l'instant, Paris, la capitale et l'épicentre de ces manifestations. Vendredi dernier, la RATP, qui régit les métros, était en grève des agents, avec des lignes à l'arrêt total durant toute la journée, et une pagaille sans nom dans Paris pour les centaines de milliers d'usagers. Nombre de personnes n'ont pas pu se rendre tout simplement sur leur lieu de travail, idem pour les collégiens, pour les lycéens, et on ne vous parle pas des embouteillages monstres en Île-de-France, digne d'un grand départ en vacances. Hier lundi, d'autres catégories, d'autres secteurs d'activité sont entrés à leur tour dans la danse, à l'appel d'un collectif qui s'est constitué et qui entend dépasser les corporations SOS Retraite. C'est ainsi qu'ont manifesté à l'appel d'SOS Retraite et bien des avocats, des personnels des transports aériens, des médecins, des infirmières, des kinésithérapeutes. Un mouvement très suivi du côté des avocats, par exemple. Le Conseil national des barreaux avait appelé à la grève des audiences. Hein, les professions dont nous parlons là, ce sont les professions libérales qui ont aujourd'hui leur propre système de calcul des retraites et des pensions que l'on touche une fois retiré de la vie active. Le gouvernement prévoit de tout mettre à plat pour justement mettre fin aux différents régimes, les régimes spéciaux, les disparités, avec un système universel qui est promis à l'avenir pour tous les Français, pour tous les retraités. Alors, ce que dénoncent nombre de professions, à commencer par les professions libérales, c'est que l'on remette en cause le système des caisses complémentaires. Aujourd'hui, quand vous êtes retraité, vous touchez votre retraite versée par l'État, mais cette retraite est très maigre, bien souvent, et donc elle est complétée par un versement d'une caisse complémentaire si vous avez pu, durant vos années d'activité, cotiser à une caisse complémentaire. Chaque corporation a ainsi sa propre caisse complémentaire qui est indépendante. Or, il y a la crainte que l'État, indirectement, dans le nouveau système, mette la main sur ces caisses privées sans lesquelles nombre de retraités toucheraient une retraite dérisoire. Les professions libérales craignent aussi qu'on leur demande des versements plus conséquents chaque mois pour alimenter le futur système. Cette réforme des retraites, elle ne va pas se faire en un jour, hein, d'un claquement de doigts. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est exprimé la semaine dernière. Il souhaite des concertations avec les syndicats, les citoyens jusqu'à la fin de l'année et un vote de la loi de la réforme d'ici l'été prochain. Nous sommes décidés à prendre tout le temps nécessaire, a lâché Édouard Philippe. Un calendrier donc assez large fixé par le gouvernement, mais on sent bien que ce dossier est potentiellement explosif. Aujourd'hui, l'âge du départ à la retraite, il est fixé à 62 ans. Le verrou des 60 ans a déjà sauté il y a quelques années, mais il pourrait à l'avenir s'étendre jusqu'à 64, 65 ans, voire plus. Le gouvernement, pour l'instant, ne veut pas fixer une limite d'âge. Il est plutôt question d'une retraite par points que l'on aurait accumulé, des points tout au long de sa vie active. Il y aurait une certaine souplesse qui pourrait vous permettre de toucher une meilleure pension, mais à condition de travailler bien plus longtemps. Et donc débat sur l'âge du départ à la retraite, débat sur la durée de cotisation et cette transition des 42 régimes de retraite existants, il y en a 42 différents, vers un régime universel. Le chantier, on le voit, il est énorme, il est explosif, oui, dans la mesure où vous pouvez employer les mots et la sémantique que vous voulez. Il n'y a pas de recette miracle pour assurer l'équilibre des caisses de retraite avec une population vieillissante et des jeunes qui entrent sur le marché du travail plus tard. Il n'y a pas 36 solutions. À l'avenir, oui, il va falloir travailler plus longtemps avant de pouvoir toucher sa retraite. Alors depuis 30 ans, les différents gouvernements se sont tous attelés à un moment donné à réformer le système. Il y a eu des avancées, mais aussi des reculés. Et pour cause, dès que vous expliquez aux salariés qu'ils vont devoir travailler 1, 2, 3 ans de plus, forcément la colère monte et vous retrouvez les Français dans la rue. Ce feuilleton de la réforme des retraites qui va alimenter à coup sûr l'actualité sociale des prochains mois.
Et enfin, pour terminer, la bataille pour la mairie de Paris.
Oui, les élections municipales en France, elles sont programmées pour le printemps, dans 6 mois, mais un peu partout. Hein. Il y a 36 000 communes en France. Eh bien, la campagne officieuse a commencé, et c'est le cas à Paris, bien entendu. Tout laisse à penser à Paris qu'Anne Hidalgo, élue en 2014, va briguer un nouveau mandat. Anne Hidalgo, la socialiste, elle arrive en tête des sondages pour l'instant. Elle arriverait en tête du premier tour, malgré une image quelque peu dégradée. Hein. Il y a eu, depuis 2 ans, l'épisode des Vélib, les vélos qui sont mis à disposition des Parisiens. Le concessionnaire a changé. Pendant près d'un an, on ne pouvait plus utiliser les Vélib. Il y a tous les travaux lancés dans Paris, justement, pour construire un peu partout des pistes cyclables. Ces travaux ont pris du retard dans l'Est parisien, notamment Bastille, Nation, avec des pelleteuses, les marteaux-piqueurs, depuis des mois et des mois. Anne Hidalgo veut boucler tous ses chantiers au plus vite, forcément. Et en cette rentrée, eh bien, elle a donné des gages aux familles avec les passes métro qui vont être pris en charge tout ou partie par les collectivités publiques. Face à elle, face à Anne Hidalgo, ils sont deux principaux candidats. Benjamin Griveaux, désigné par le parti La République En Marche, qui est le parti présidentiel, le parti d'Emmanuel Macron, le président de la République, mais aussi Cédric Villani, lui aussi fait partie de la sphère de La République En Marche, mais il n'a pas été désigné. Il a décidé, malgré tout, de se lancer dans la campagne en solo pour la mairie de Paris. Cédric Villani, mathématicien de renom, n'a pas supporté d'être battu dans la course à l'investiture. Il y va tout seul, mais c'est la guerre à distance avec Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, Cédric Villani, selon un sondage publié ce week-end dans le Journal du Dimanche, ils seraient crédités au premier tour, tous les deux, de 17% pour Benjamin Griveaux, 15% pour Cédric Villani. Alors, c'est loin derrière le score de 24% d'Anne Hidalgo, mais à deux, Benjamin Griveaux, Cédric Villani, il pèse plus que la socialiste. Et donc tout l'enjeu des prochains mois va être de savoir si l'un ou l'autre va se désister ou s'ils vont maintenir jusqu'au bout leur candidature, chacun pour soi, en espérant qu'au deuxième tour de ces municipales, eh bien, le rassemblement de La République En Marche et de la droite fera vaciller Anne Hidalgo, qui a succédé en 2014 à Bertrand Delanoë, la mairie de Paris, qui est tenue par la gauche, par les socialistes, depuis 2001.
Émile, merci et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité en France.
Merci, à bientôt.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.